Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Merci d'être avec nous sur la radio Nzamba Gateka Kawe. C'est l'heure du journal en français, dont voici d'abord les principales articulations. La Fondation pour le logement des enseignants met en place un projet de microfinance, mais beaucoup d'enseignants se lamentent et disent qu'ils n'ont pas été associés dans la conception du projet. Et puis, les mauvaises économiques et la mauvaise gouvernance sont à l'origine de la hausse généralisée des prix dans le pays, selon l'ONG locale Parsem. Elle appelle le gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour redresser la situation. Et enfin, en début de cette semaine, une délégation du gouvernement burundais était à Nyarugusu en Tanzanie pour demander aux réfugiés burundais de rentrer au pays, arguant que la sécurité est au beau fixe. Beaucoup de réfugiés n'ont pas été convaincus. Voilà pour le sommaire de ce journal. Nous sommes mercredi 2 août 2023.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Deux conducteurs de moto et un passager sont morts calcinés par l'essence. C'était dans un accident de roulage de deux motos qui se sont cognées dans la matinée de ce mercredi sur la route nationale 12 en commune Guiheta de la province de Gitega. Un des motards transportait des bidons remplis d'essence et c'est cette essence qui a déclenché l'incendie qui a brûlé les trois personnes. Et quand même, cette bonne nouvelle, les retraités vont bientôt pouvoir bénéficier des moyens équivalents à leur salaire comme promis par le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Cette nouvelle vient du ministre de la fonction publique. C'était ce mercredi lors de la présentation des réalisations de l'année budgétaire 2022-2023. Le ministre Deo Lusein Ngwamihigo a précisé que le travail d'identification des bénéficiaires a déjà été achevé. Suivez-le.
Les retraités, comme l'a si bien dit son Excellence le Président de la République, ils devront partir avec un montant égal ou presque égal au salaire régulièrement perçu. Eh bien, à ceci, nous sommes à l'opération. Nous sommes d'abord attelés à calculer les départs des retraités, ceux qui partent à 60 ans, ils sont à combien ? À 61, à 62, à 63, à 64 et à 65 ans. Ce qui fait 6 promotions de retraités. Attends. Cette opération est déjà clôturée. Nous savons maintenant les effectifs. Maintenant, nous sommes à la deuxième opération qui est de régulariser la carrière de ces retraités partants. Nous sommes à l'opération et en pleine opération. Nous osons espérer qu'avant la fin du mois, tout sera donné parce qu'il y a des équipes fortes qui sont mises en place et qui sont au travail. Nous osons espérer qu'à la quinzaine du mois, ou tendant vers 3 semaines du mois, qu'ils auront déjà terminé. Cela a été un mot d'ordre lancé par son Excellence le Président de la République. Et à cela, nous devons nous y mettre pour qu'enfin sa parole soit une réalité. Et cela est une réalité prochaine.
Je vous le disais en titre, il y a des enseignants membres de la Fondation pour le logement des enseignants qui se lamentent et disent n'avoir pas été associés dans le projet de transformation de cette fondation en une microfinance. Ils accusent les dirigeants de la fondation de chercher leurs propres intérêts au lieu de privilégier les intérêts communs de tous les membres de l'association. Le point avec Eddie Claude Nina Hazoué.
Les inquiétudes de ces enseignants se fondent sur le fait qu'ils n'ont pas été associés pour décider ensemble le sort de leur fondation. En plus de cela, le comité de gestion de cette microfinance a été mise en place sur des critères qui ne rassurent pas les membres de la FLE. Ils estiment qu'ils seraient au service des dirigeants de la fondation qui veulent la transformer en une microfinance pour leurs propres intérêts.
Ils ont élu les organes, le tabac, le conseil d'administration, le tabac, le conseil de surveillance, le tabac, le président, le gérant de cette microfinance. Mais tout cela n'a été que des jeux. Donc, visant à protéger les intérêts de ces représentants nationaux, alors que le capital appartient à l'enseignant. Auparavant, nous avons eu des informations via ces représentants nationaux disant que maintenant l'enseignant va avoir un bénéfice qui proviendra de ses cotisations mensuelles de 10 000 francs. Alors, mais après, nous avons entendu que la fin de confiance a été mise en troisième catégorie, alors que cette catégorie exige que les membres n'aient pas eu droit au dividende.
Selon eux, la Banque centrale ne devrait pas agréer cette microfinance, à moins qu'il y ait une assemblée générale du personnel enseignant, membre pour décider ensemble sur la gestion de leur argent.
Vu toutes ces inquiétudes, nous demandons à la BRB de ne pas agréer la fin microfinance, parce que nous avons vu que les représentants nationaux visent à protéger les intérêts en excluant l'enseignant. Donc, qui est alors le premier acteur, le premier propriétaire ou le premier sociétaire de cette microfinance? Sinon, nous aurons des problèmes graves et nous regretterons à la longue parce que nous verrons que cette microfinance ne sera qu'une propriété de ses représentants nationaux.
Ils sont à plus de 19 000 membres de la FLE, 10 000 francs burundais. C'est la somme retenue sur le compte de chaque membre. J'ai de 18 ans, vieille de 18 ans. La Fondation pour le logement du personnel enseignant avait atteint 6 milliards de francs burundais d'épargne en 2022, selon un article du journal La Voix de l'enseignant qui date d'avril 2022.
Le président du conseil de la Fondation pour le logement des personnes de l'enseignement précise toutefois que la microfinance est un projet de la Fondation et que l'adhésion à cette microfinance est libre, individuelle et volontaire. Dans un point de presse animé à la fin de la semaine dernière par le président du conseil de la Fondation, Victor Ndabaniwe, il a bel et bien précisé que la microfinance a été mise en place après consentement avec les enseignants. Suivez.
Je dirais qu'on a déjà entamé le processus d'information après, bien sûr, les assemblées générales qui ont eu lieu depuis le début du mois de juin. Et on a organisé des assemblées générales communales. À cette occasion, tous les enseignants membres de la FLE ont eu l'occasion de participer à ces assemblées communales électives. Ils se sont eux-mêmes élus, les représentants, les délégués communaux, qui les représentent dans les organes de prise de décision. Et après, on a organisé plusieurs réunions d'information à l'endroit de ceux qui sont élus comme délégués. Et après, on a aussi organisé l'Assemblée générale constituante qui a eu lieu dernièrement. Et donc, vous comprendrez bien que tous les enseignants qui souhaitent être informés, qui souhaitent adhérer ou démissionner ou se désengager du processus en cours, ils ont des représentants qui sont basés dans toutes les communes du pays. Donc, ils ont le droit de poser n'importe question à ceux qui sont élus. Donc, avant qu'on procède aux descentes en cours d'organisation par la FLE Fondation, tous les enseignants doivent comprendre qu'ils ont la liberté de choisir la microfinance ou la société coopérative qui puisse répondre à ses attentes sans aucun harcèlement.
Inzamba. Dans la suite de ce journal, la majeure partie des activités prévues dans l'accord d'Arusha n'ont pas été réalisées au Burundi. C'est ce qu'indique Léonard Nyangoma, président du parti CNDD. C'est au moment où, ce lundi de cette semaine, le Sénat burundais a lancé des consultations pour voir s'il faut garder ou non le système des quotas ethniques dans les institutions. Il interpelle le gouvernement à se pencher plutôt aux questions sensibles comme la pauvreté et le rapatriement des réfugiés. Écoutez.
La priorité pour le moment, je pense bien, s'il faut donner du travail au Sénat, ça serait d'évaluer l'application des accords d'Arusha. Parce que ces accords d'Arusha n'ont jamais été évalués. La commission qui était chargée de mettre en application l'accord d'Arusha a été dissoute après les élections de 2005. Toutefois, cette commission avait produit un rapport très important qu'il faut toujours consulter. Dans ce rapport, il était dit que 3/5 des activités prévues dans l'accord d'Arusha n'ont pas été réalisés, donc 2/5 seulement ont été mis en application, notamment les activités en rapport avec le protocole 1 sur la paix, la réconciliation. Quoique vous savez même que la commission de vérité qui était prévue à ce moment n'a pas été mise en place. La plupart des participants, des négociateurs à Arusha, ils ont privilégié le protocole 2 qui donne le pouvoir uniquement. Ils ont laissé vraiment totalement de côté le protocole 1, qui était très fondamental et très important pour la réconciliation des Burundais. Le protocole 3 aussi, je dirais qu'il n'a pas aussi été mis, vraiment en grande partie mis en application. On a rassemblé combattants des mouvements armés et les ex-forces armées burundaises, tout simplement. On les a mis ensemble, tout simplement, mais l'intégration était tout un processus qui aurait pu durer même 10 ans ou plus. Aussi, le protocole cadre sur la reconstruction du pays, le développement, très peu de choses ont été réalisées. Il y avait aussi la question du rapatriement des réfugiés, mais vous voyez que cette question n'a été à peine effleurée et n'a pas été mise en application.
Dans le domaine de l'économie, la hausse des prix des différents produits et des services qui s'observent dans le pays est due à la situation de crise économique que connaît le pays, comme le constate Faustin Dikoumana. Cet expert en économie et directeur national de la PARSEM explique que cette situation résulte d'une grande période de corruption, de malversation économique et de mauvaise gouvernance. Pour lui, le gouvernement devrait prendre dans l'urgence des mesures nécessaires et surtout placer des techniciens qui sont capables pour relancer l'économie. Écoutez.
Le Burundi, c'est un pays qui n'exporte presque rien. C'est un pays qui ne reçoit pas d'aide publique au développement. C'est un pays qui n'a pas d'investissement direct étranger, où la diaspora n'investit pas assez. C'est un pays qui a peu de capacité d'imprimer à l'extérieur. Et la production a chuté dans plusieurs secteurs, y compris la production agricole. Et par contre, il y a un mensonge qui s'est entretenu disant qu'il y a une autosuffisance alimentaire, qu'il y a une autosuffisance au niveau même du financement interne de développement, et il y a une spéculation sur les devises avec une mauvaise chose du prix de devises qu'on avait, et il y a une tendance à la manipulation du FAMBU en augmentant l'endettement intérieur à partir des avances de la Banque centrale, à partir de l'endettement auprès du secteur bancaire et financier qui a provoqué ce qu'on appelle l'effet d'éviction, le gel des annales, accompagné par une mauvaise gouvernance budgétaire dans l'opacité sans contrôle. Et cela a provoqué l'inflation actuelle. Donc, pour inverser la tendance, il faut des mesures énergiques. Parce que actuellement, la structure du budget 2023-2024 ne dit rien de beau parce que nous avons un déficit de plus de 700 milliards. Alors, qu'est-ce qu'un déficit, y compris donc, c'est-à-dire que même si on mobilise les taxes et les aides publiques au développement, on garde un déficit de plus de 700 milliards. C'est une crise vraiment économique sans précédent. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut qu'il y ait un nouvel ordre de gouvernance dans son pays, avec des hommes capables pour le mettre en application. Capables de faire une planification, suivre l'évaluation et une production de statistiques fiables qui permettent d'évaluer l'avance des choses. Il y a le climat des affaires pour booster le secteur privé et la mobilisation des investissements directs étrangers. Il y a la gouvernance budgétaire à renforcer. Il y a la politique monétaire de change qu'il faut bien assainir. Il y a le secteur financier qu'il faut booster pour financer l'économie. Il y a la mobilisation, augmenter la capacité de mobilisation des financements extérieurs. Et il faut une stratégie nationale de lutte contre la corruption pour quand même renforcer la bonne gouvernance. En dehors de ça, vraiment, la situation au Burundi, il sera difficile de vraiment d'inverser la tendance si des mesures énergiques ne sont pas prises dans les pays.
Dernier dossier de ce journal, une délégation burundaise conduite par le secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur en visite au début de cette semaine dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie a appelé les réfugiés burundais vivant en Tanzanie à rentrer au pays. Elle a expliqué que la paix et la sécurité sont garanties au Burundi, mais beaucoup de réfugiés n'ont pas été convaincus. Ils ont exprimé leur réticence de rentrer, évoquant des raisons d'insécurité et de pauvreté qui perdurent au Burundi. Les détails avec Bonfils Niyongere.
Dans cette visite de la délégation burundaise dans le camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie, la secrétaire permanente au ministère de l'Intérieur, Mme Kalini Mbarushimana, qui conduisait la délégation dans son allocution, a dit que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national et qu'il n'y a pas de raison que les réfugiés vivant dans ce camp continuent à croupir dans la misère. Et c'est basé sur la décision du gouvernement tanzanien de fermer les centres de santé à l'intérieur du camp de Nyarugusu et les problèmes liés à la scolarité des enfants réfugiés, alors que la scolarité est gratuite au Burundi selon la secrétaire permanente. Toutes les conditions sont réunies pour les accueillir.
Nous sommes venus, chers frères et sœurs, pour échanger. Ceux qui dialoguent obtiennent la bénédiction de Dieu. Vous venez d'entendre l'allocution de celui en charge des réfugiés dans son pays. Il a parlé sans mâcher les mots. Il dit que certains centres de santé sont déjà fermés, que d'autres sont en voie de fermeture. Alors, chers frères, quand je regarde votre effectif et que les ménages sont très proches les uns des autres, on se rappelle la période du Covid. Vous avez des risques d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Ce n'est pas tout, et la malaria ainsi de suite. Comment vous attendez cela dans une zone sans soins de santé? Quel avenir? Nous sommes venus vous dire la vérité. Les enfants au Burundi étudient gratuitement.
Et parmi les réfugiés qui ont pris la parole a dit que même si cette délégation n'était pas venue, les réfugiés souhaitent de bon gré rentrer au Burundi, mais qu'à part les conditions politico-sécuritaires qui ne les tranquillisent pas, les conditions de vie misérables dans lesquelles vivent la grande majorité des Burundais ne les incitent pas à rentrer au pays.
Nous souhaitons rentrer au pays même si vous n'étiez pas venu. Nous souhaitons rentrer, mais le problème que nous avons, il y a quelqu'un ici qui dit que nous sommes des politiciens. Non et non. Nous ne sommes pas des politiciens avec les armes pour combattre. Non. Nous avons la politique de la famine. Et c'est au moment où nous entendons qu'au Burundi la famine fait rage, on se demande comment on va y vivre. Il nous est difficile d'engager nos familles alors que nous n'avons pas des moyens pour vivre. En plus, nous voyons des gens qui viennent au Burundi pour chercher à manger en Tanzanie. Ils sont arrêtés, jetés en prison, tabassés, portés disparus, alors qu'ils sont venus du Burundi à cause de la faim. Tout ça, ce sont des questions qui s'ajoutent à celles qui ont été dites. Mais moi, je dis que nous ne sommes pas des politiciens. Non et non.
Vous saurez que cette visite dans le cas de Nyarugusu est intervenue après la réunion tripartite du mois de mai qui a réuni le gouvernement burundais et le gouvernement tanzanien ainsi que le HCR à Gitega pour analyser ensemble la situation dans laquelle vivent les réfugiés burundais en Tanzanie.
Merci bien, bon fils Niongere, pour toutes ces précisions. Et c'est pas là que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.